Les années incandescentes, 14e épisode. Londres, le 7 juillet 1902. Mon cher Heinrich, j'ai rencontré Lord de Rothschild. C'est un vieux gentleman anglo-juif de bonne allure. Il commença aussitôt à vider son sac de stupidité. Il serait funambulesque de rapporter toutes les sottises qu'il débita avec une grande assurance. En Angleterre, affirma-t-il, il n'y aura jamais d'antisémitisme. Ce qui s'est passé en France avec l'affaire Dreyfus est une autre histoire. Il poursuivit en me déclarant qu'il ne croyait pas au sionisme et qu'il n'était pas sioniste. Nous n'aurons jamais la Palestine. Pour sa part, il est anglais et il entend le rester. Puis il se mit à m'expliquer ce qu'il souhaitait que je dise ou ne dise pas au ministre des colonies, Chamberlain. Je dirai à Chamberlain ce que je juge bon et dont je suis convaincu. Cela a toujours été mon habitude et c'est ce que je ferai encore cette fois-ci. Je dirai simplement quelle immense misère règne parmi les nôtres dans l'Est de l'Europe et qu'il s'agit pour ces gens-là de partir ou de mourir. Le drame des Juifs roumains. Nous le connaissons depuis 1897. En Galicie, la situation est peut-être encore pire. Là-bas, il y a plus de 700 000 Juifs en détresse. Eux aussi se mettront en mouvement. Lord de Rothschild eut l'air choqué. « Je souhaite que vous ne disiez pas cela à Chamberlain. Autrement, nous pouvons craindre une loi restrictive sur l'immigration en Angleterre. » « Bien sûr que si, je le dirai. Cela, vous pouvez y compter. La bienfaisance juive est devenue une machine à faire taire les cris de détresse. » Lord de Rothschild eut alors cette phrase fantastique. « Vous proposez une colonisation ? Soit, mais pourquoi la Palestine ? La Palestine, comment dire ? Cela fait trop... Juif. Et c'est avec cette bande d'idiots qu'il me faut négocier. Ton ami de toujours, Théodore. Londres. Le 23 octobre 1902. Mon cher Heinrich, j'ai donc parlé hier au ministre des colonies, le célèbre Joe Chamberlain, grand homme de l'Angleterre. Notre entretien a duré une heure. Je lui déclarai : je suis en négociation avec le sultan, mais vous savez bien ce que c'est que les négociations à la turque. Si vous voulez acheter un tapis, vous devez d'abord boire une demi-douzaine de tasses de café et fumer une centaine de cigarettes. Ensuite, vous discutez d'histoires de famille et, de temps en temps, vous dites à nouveau quelques mots à propos du tapis. Or, pour ma part, j'ai le temps de négocier comme cela. Mais les miens n'ont pas le temps. Ils sont en train de crever dans la zone de résidence, le grand ghetto de Russie. Je dois leur apporter une aide immédiate. Et si la Palestine n'est pas une option possible aujourd'hui, je suis prêt à étudier des alternatives qui pourraient être des possessions dans l'Empire britannique, proche de la Palestine. La région d'El Arish, dans la péninsule du Sinaï, par exemple. Docteur Herzl, si vous pouviez me montrer un endroit, quelque part, dans les possessions anglaises, où l'homme blanc n'a pas encore mis les pieds, alors on pourrait discuter. Je lui dessinai alors, sur un bout de papier, un schéma de cette région dans la péninsule du Sinaï, en Égypte. En même temps, je lui présentai mon idée d'un arrière-pays s'étendant vers Haïfa. Il ne savait même pas, en fait, où se trouvait cette région. Il dénicha un atlas. Puis, dans celui-ci, il trouva la carte d'Égypte et dit « Il est évident que nous ne pouvons pas envisager l'Égypte. Nous aurions des difficultés avec les gens qui y habitent. » Ce que je lui répondis le fit sourire. « Non, nous n'irons pas en Égypte. Nous y sommes déjà allés. » L'impression que me fait Chamberlain n'est pas brillante. Ce n'est pas quelqu'un d'imaginatif. C'est un froid fabricant de vices qui veut étendre son commerce. Un être dépourvu de ressources littéraires ou artistiques. Un homme d'affaires dont, au demeurant, l'esprit est parfaitement lucide et clair comme un ciel sans nuages. On eût dit le gérant d'une grande boutique de fripiers qui ne saurait pas très exactement si tel ou tel article particulier se trouve en magasin. Ayant réalisé que j'ai besoin d'un pays pour rassembler le peuple juif, il va maintenant regarder si l'Angleterre possède en stock quelque chose qui convient. Nous verrons ce qu'il en sortira. Ton ami de toujours, Théodore. Vienne, le 7 novembre 1902. Mon papa bien-aimé, à toi aussi, désormais, j'écris même si tu n'es plus là. Ta chère mémoire m'occupe chaque jour et je dis pour toi le Kaddish à ma façon. Bientôt, bientôt, moi aussi je reposerai à tes côtés. À la suite du congrès sioniste, je me suis effondré de fatigue, au point que j'ai dû interrompre mon activité. La conférence annuelle et ses à côté m'ont à tel point fatigué que, depuis dimanche, je souffre de toutes sortes d'ennuis cardiaques. Depuis le début de la semaine, je me traîne, incapable d'écrire quelques lignes. Aujourd'hui, enfin, je me suis fait porter malade au journal. Ton fils, auquel tu manques cruellement, Théodore. Vienne, le 20 novembre 1902. Mon cher Heinrich, j'ai demandé à un ami de prendre la direction du mouvement pendant quelque temps pour me reposer. Il a refusé. Voici sa réponse. Vous êtes un très, très grand homme, mais vous regardez de haut le reste du monde. Vous êtes aussi très méfiant. J'ai passé de merveilleux moments en votre compagnie, mais vous savez ce que je me dis souvent ? Je me dis que servir cet homme, l'aider, est une pure joie. Être son ami véritable, sincère et difficile. Ton ami de toujours, Théodore. Inspiré du journal de Theodor Herzl, traduit de l'allemand par Paul Kessler, et de la biographie consacrée par Serge-Alain Rosenblum, sur des musiques originales de Frédéric Schumann et Freddy Mink, un mixage réalisé par Xavier Dreyfus, un visuel conçu par Fabienne Wacknin, L'idée originale du podcast a été développée par Patrice Kemoun.